Bonjour et bienvenue dans Faire Écho, le podcast du labo de l'ESS qui transforme votre vision de l'économie. En 2023, le labo de l'ESS a publié une étude, l'aboutissement d'un an de travail intitulé « Réussir une transition écologique juste ». Celle-ci n'est pas qu'une question technique ou économique, c'est aussi et même avant tout un changement culturel et social profond. Accompagner ce changement des représentations et des modes de vie nécessite de dépasser la seule sensibilisation et les injonctions théoriques et déconnectées. Une appropriation par chacun et chacune de la transition écologique juste est essentielle. Soutien de l'émancipation de toutes et tous, l'éducation populaire apparaît comme la solution. En effet, celle-ci est un formidable levier pour permettre cette appropriation active de la transition écologique juste, permettant de respecter les expériences personnelles de toutes et tous, sans jamais les disqualifier. Alors qu'est-ce que l'éducation populaire? Quelle est son origine? Quels sont ses liens avec l'ESS? Et enfin, comment la décupler sur l'ensemble du territoire? Pour répondre à ces problématiques, nous accueillons aujourd'hui Julien Mast, directeur d'IGREN, et Florian Laboulé, responsable projet et développement au labo de l'ESS. Florian et Julien, bonjour.
Bonjour.
Florian. Le labo de l'ESS a récemment coproduit avec le mouvement d'éducation populaire IGREN une note stratégique dédiée au rôle de l'éducation populaire. C'est un sujet que n'avait pas encore abordé le labo de l'ESS. Quelle était l'intention de cette note?
Avant cette note, on a fait une étude sur la transition écologique juste, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un précédent podcast. Et dans cette étude-là, on proposait à la fois une vision de ce que c'est que la transition écologique juste et on essayait de révéler en quoi l'ESS, elle, contribue à cette transition. Et dans cette étude-là, dans cette définition qu'on posait de la transition écologique juste, on insistait sur le fait que pour être juste, une transition, elle doit être démocratique, elle doit répondre aux besoins de toutes et tous et elle doit être porteuse d'émancipation, elle doit se concrétiser dans de la liberté pour tout un chacun. Et donc, la conviction qui est sous-jacente derrière tout ça, c'est que la transition, c'est pas simplement une affaire technique, c'est surtout quelque chose qui se joue entre le changement assez profond de notre économie et un changement culturel. Et c'est là où on en est venu à se dire qu'il fallait qu'on travaille sur l'éducation populaire, parce qu'elle nous apparaissait de prime abord, et ça semble confirmé, mais Julien en dira plus que moi, comme un outil qui permet de mener cette dimension culturelle de la transition avec, en cohérence avec les principes de démocratie et d'émancipation qui fondent la vision de la transition écologique juste telle qu'on l'a définie.
Cette ébauche de définition nous donne envie d'en savoir plus. Julien, en tant qu'acteur de cette éducation populaire, comment est-ce que vous la décririez ?
Grande question que de décrire l'éducation populaire. Du coup, je ne vais pas rentrer dans les définitions techniques parce qu'on va trouver autant de définitions qu'il y a de courants de pensée dans l'éducation populaire. Mais je vais essayer de dire au moins ce que moi je pense par rapport à tout ça. Aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est tout ce qui va être à côté de l'école. Vous avez l'éducation institutionnelle et l'éducation populaire, c'est toutes les autres parties de la co-éducation en dehors de la partie éducation parentale. Et du coup, à travers ça, on va trouver pas mal d'actions. On va trouver le sport potentiellement, on va trouver les centres d'accueil, de loisirs, on va trouver pas mal d'acteurs. Mais on va aussi créer peut-être... une autre partie qui est moins délégation de services publics et qui est plus une éducation presque politique, en tout cas qui va être accompagnatrice du changement, qui pour moi est une des grandes parties de l'éducation populaire. Et c'est du coup, c'est comment on va accompagner les gens à trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui et à donner leur opinion dans le monde de demain. Et du coup, ça passe par de multiples acteurs et par de multiples actions qui vont accompagner le changement. Et dans ce cadre-là, moi j'appelle ça l'éducation populaire.
On voit bien ici les effets positifs d'une telle éducation populaire sur le collectif. Toutefois, malgré de multiples actions de sensibilisation autour de la crise écologique et de son lien avec les enjeux sociaux et les inégalités, contribuant à mettre ces questions à l'agenda politique et médiatique, d'en faire un sujet de société, on en perçoit aussi les limites. La parole sur l'écologie reste très concentrée sur une partie de la population, la façon dont cette question est appréhendée laisse beaucoup de monde en marge du débat, et l'écologie est, pour bien des gens, synonyme d'injonction déconnectée de leur réalité. On est loin de la transition écologique juste et émancipatrice que nous souhaitons porter. Est-ce que l'éducation populaire peut contribuer à dépasser cette tension ?
Moi, je milite pour, en tout cas, j'y crois très fermement. Après, est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. L'éducation populaire, faut toujours se rappeler que ça reste un soft power. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour mettre en place une transition, c'est quand même le pouvoir public qui va le mettre. Et puis, pour arriver sur un futur désirable et pour qu'en fait, ce soit juste à terme, ce ne sera pas simplement l'éducation qui fera que. Par contre, pour pouvoir entamer une action de transition, ça veut dire qu'à un moment donné, les gens vont accepter de passer d'un état A à un état B. Et pour passer d'un état A à un état B, c'est bien de le comprendre, c'est bien de le vivre et c'est bien d'être accompagné dans ce que tu vas vivre. Et pour ça, pour moi, l'éducation populaire est l'outil principal, l'outil d'accompagnement au changement qui va permettre à ce que les gens déjà acceptent le constat comme il est. Ensuite, qu'ils se disent « oui, j'ai envie de changer », mais après, le « j'ai envie », ça ne fait pas « je change ». Ça veut dire « je vais », et après, du coup, on va m'accompagner à changer pour arriver sur un autre état. Est-ce que ça sera suffisant? C'est pas parce qu'il n'y aura que l'éducation populaire que ça va le faire. C'est pour ça que pour moi, l'éducation populaire, elle doit encore plus se relier à l'économie sociale et solidaire. Parce que, en fait, l'économie sociale et solidaire doit être la norme de l'économie de demain et l'éducation populaire est l'outil pour accompagner les grands changements comme il l'a été à chaque époque de grands changements sociétals. Et du coup, peut-être que réunis, plus avec des pouvoirs publics qui mettent les investissements là où il le faut et qui ont une vocation à eux aussi être dans cette transition, alors à la fin, on peut arriver sur peut-être des territoires justes et solidaires.
Des territoires justes et solidaires, Florian, cela fait écho aussi à l'ESS, l'économie sociale et solidaire. La note appelle à une alliance entre cette économie alternative et l'éducation populaire. Pourquoi ?
Du coup, vous l'avez entendu, on est bien d'accord avec Julien. Le constat de base, c'est que finalement, même si elles partagent une histoire assez forte, éducation populaire et ESS, leur lien, notamment vis-à-vis de la transition, n'est pas toujours aussi évident. Alors certes, les acteurs de l'éducation populaire font très majoritairement partie de l'ESS statutairement, hein, puisqu'elles font partie du périmètre juridique proposé par la loi de 2014, souvent de façon associative ou sous forme associative ou sous forme coopérative, mais ça implique pas forcément qu'il y ait une adéquation dans les actions entre projet de transformation économique et transformation culturelle, et que ce soit pensé comme tel par les acteurs sur le terrain. Et donc nous, il nous semble important maintenant qu'à la fois nationalement et localement, les acteurs de l'ESS engagés dans la transition écologique juste et qui aujourd'hui ont une force de frappe en termes de sensibilisation, mais n'ont pas forcément les méthodes et les savoir-faire des acteurs de l'éducation populaire, travaillent main dans la main avec les acteurs de l'éducation populaire qui ont ces savoir-faire, mais qui ont aussi besoin des acteurs de l'ESS pour concrétiser, on va dire, dans des actions et dans une forme d'économie, les principes et les valeurs qu'ils transmettent à travers leurs outils pédagogiques.
Dans la note, le cas d'une initiative est particulièrement développé, celui du laboratoire d'initiatives alimentaires porté par IGREN à Bordeaux. Julien, en quoi est-ce un bon exemple de ce qu'une alliance entre ESS et éducation populaire pour engendrer des dynamiques collectives de transition écologique juste?
En fait, c'est une initiative comme plein d'autres, mais elle a l'intérêt de passer d'un état A à un état B, et c'est-à-dire de passer d'un constat qui est que dans un quartier de politique prioritaire, il y a un problème d'alimentation. En tout cas, c'est le constat qui est fait par les acteurs sociaux et institutionnels. Ils appellent une association comme la nôtre et du coup, ils nous demandent de venir faire de la sensibilisation au bien manger, pour faire simple, ou en tout cas pour accompagner à que les gens aient une meilleure alimentation. Bon, en fait, on s'aperçoit très vite que le problème, il n'est pas le fait de bien manger ou de mal manger, mais il est bien le problème de la filière d'approvisionnement des produits sur le territoire. Et du coup, à un moment donné, on se dit, en fait, le problème, il n'est peut-être pas là. C'est qu'en fait, s'il n'y a pas la capacité à avoir accès à une alimentation saine et durable, en fait, on ne peut pas avoir une bonne alimentation derrière. Sauf que ça, ce n'est pas à IGREN de le monter. nous, on peut accompagner les citoyens à avoir envie de le faire, mais on peut pas gérer cette structure-là. Dans ce cadre-là, ce qu'on va faire pendant plusieurs années, c'est de faire un vrai état de lieu, d'essayer de connecter les personnes qui sont sur le territoire, du coup les habitantes du quartier, parce que je dis habitantes parce que c'est principalement des femmes, sur, en fait, qui se reconnaissent dans ce truc qu'elles ont envie de faire changer l'alimentation de leur quartier. On va faire des ateliers participatifs, on va leur donner la capacité d'expérimenter en fait des nouvelles façons de faire de l'alimentation sur le quartier en testant des activités de traiteurs, en testant des animations parents-enfants pour se reconnecter à la nourriture. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est pas suffisant. C'est effectivement, on ne répond pas à la problématique qu'il y a un problème d'approvisionnement. Du coup, on a créé une association de préfiguration qui expérimente encore des nouvelles choses, mais qui est en train d'accompagner les citoyens à autogérer leur futur en réalisant un marché de producteurs avec les producteurs locaux, en créant un mini traiteur, en essayant de faire de la formation demain. En tout cas, tout ça qui devrait amener vers une société coopérative d'intérêt collectif, si on y arrive et que les gens et toutes les parties prenantes veulent s'y mettre, pour que demain, on ait vraiment des alternatives et qu'on puisse vraiment bien manger, équilibré et sain dans le territoire, et porté par et pour les habitants du quartier.
Encore une belle initiative à découvrir. Dans cet exemple, on voit que les acteurs publics locaux sont un maillon important dans ces démarches. Florian, je me tourne vers vous. Pourquoi doivent-ils faire partie des alliances locales à développer ?
Effectivement, la participation des pouvoirs publics locaux à ces démarches d'éducation populaire, elle est essentielle. Premièrement, parce que, comme les autres parties prenantes, en fait, les élus, les agents publics, ils ont une certaine connaissance du territoire, ils ont une certaine expertise qu'il est intéressant de mettre au pot commun, parce qu'elles viennent compléter la vision globale, la vision des acteurs, et ça, c'est important pour avoir une approche un peu systémique, un peu globale du sujet. Deuxièmement, parce que l'exemple qu'a présenté Julien est intéressant, on voit bien en fait que assez rapidement les démarches d'éducation populaire, elles vont soulever des enjeux qui se retrouvent sur le terrain des politiques publiques ou des leviers en tout cas qui sont dans les mains des acteurs publics locaux. Et du coup, c'est plus facile de les manipuler quand les acteurs publics locaux sont partie intégrante de la démarche elle-même que quand ils sont extérieurs et qu'on va les voir après coup pour leur demander de résoudre la situation et d'apporter leur soutien. Et puis enfin aussi parce que les acteurs de l'éducation populaire, ils portent des démarches d'utilité sociale qui en fait sont toujours dans des modèles économiques hybrides parce que c'est compliqué, c'est pas souhaitable même dans leurs actions d'avoir un modèle purement rentable, purement marchand. Ça trahirait un petit peu leur mission. Et donc, du coup, il y a aussi besoin d'avoir un apport extérieur en financement, à la fois pour financer le temps humain d'animation, mais aussi potentiellement l'investissement. Et vu l'utilité publique de ces actions-là, les acteurs comme les collectivités territoriales ou l'État ont tout intérêt et ont toute leur place pour apporter leur concours. Mais inversement, c'est aussi intéressant pour les collectivités et les acteurs publics locaux de s'impliquer parce que ça permet d'ancrer leurs actions dans des démarches partagées, de positionner en fait les sujets qu'ils veulent mettre en place comme politique publique, comme des communs à défendre et nourrir collectivement. Et donc, ça amène à la fois plus d'efficacité dans les actions parce que tout le monde est mis autour de la table et ça répond mieux aux besoins. Mais aussi, c'est quelque chose qui sera finalement plus acceptable par les citoyens puisqu'ils auront partagé les constats, ils auront participé à la définition des solutions. Et donc, ça crée aussi un lien plus direct avec l'ensemble des acteurs du territoire et ça permet de développer un langage commun, une compréhension partagée des enjeux. Et ça, juste pour conclure, ça suppose aussi de sortir des postures à la fois de la part de la collectivité qui ne doit pas se poser d'emblée comme un décideur, mais aussi de la part des citoyens et des acteurs socio-économiques qui ne doivent pas poser un regard sur la collectivité, qui serait uniquement une position attentive qui consisterait à renvoyer la responsabilité du changement aux acteurs publics qui auraient les tout-pouvoirs en fait, pour résoudre les problèmes.
Vous mentionnez des propositions de changement à l'égard des acteurs à la fois publics et économiques. Julien, quels sont les autres freins identifiés au déploiement de ces actions d'éducation populaire à la transition écologique juste et quelles propositions pour y faire face ?
Il y a plusieurs freins qui sont identifiés, mais je pense que le premier frein, il est en fait quelle transition on veut et pour atterrir où. On le sait, Florian l'a dit juste avant, en fait, les problématiques qu'on touche là, on touche à l'intérêt général, on touche au bien commun, on touche à ce que, quelle société on veut demain. Quels que soient les acteurs de l'ESS ou des acteurs de l'éducation populaire pour la partie accompagnement au changement, dans tous les cas, il faut quand même qu'on sache où est-ce qu'on veut atterrir. Parce qu'à un moment donné, c'est des projets de société, c'est des projets qu'on doit mettre en place. Et là, du coup, il y a besoin d'un dialogue assez important, parce que si on ne sait pas exactement où on veut atterrir et qu'on ne défend pas, ben on n'arrivera pas à passer les étapes pour y arriver ensemble. Quand je dis les étapes, en fait, elles sont à plein de niveaux. Comme je vous ai dit là, sur l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, effectivement, la première chose, c'est de faire un constat commun. La deuxième chose, c'est de mobiliser des gens, des parties prenantes pour avoir envie de faire bouger la situation. La troisième chose, c'est d'expérimenter des actions, des choses qui pourraient être une partie de la réponse pour demain. Mais à un moment donné, pour que en fait, une réponse soit structurelle pour un quartier, en fait, ce n'est pas les acteurs citoyens qui peuvent trouver les financements. Ce n'est pas les citoyens qui doivent trouver les réponses. En fait, nous, on peut faire la preuve, ce qu'on appellerait dans la Startup Nation, mais peut-être les preuves de concept. Mais à un moment donné, en fait, il va falloir trouver le financement. Et en fait, là, c'est du bien commun. Et là, c'est à un moment donné, c'est la force des pouvoirs publics d'aller mettre les moyens s'ils veulent vraiment répondre à ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est une vraie difficulté, hein, à l'heure où les collectivités territoriales sont soumises à plus de pression sur leur budget, à l'heure où il y a beaucoup de crises en tant que telles, quels sont les arbitrages financiers qu'on va faire? Quels moyens on va donner et aux acteurs de terrain, comme Florian disait, comme pour accompagner, mais aussi à un moment donné, quels moyens structurels on va faire pour arriver justement à des réponses qui seront différentes? Et en fait, ça, c'est peut-être le dernier frein, c'est que en fait, aujourd'hui, en tout cas, les acteurs de l'éducation populaire sont quand même assez soumis à une notion d'urgence. En effet, on le sait, hein, le social en général, aujourd'hui, on nous met une certaine pression qui est de dire, en fait, à quoi vous servez? Quel est l'impact que vous avez? Est-ce que cette action a un impact là, direct? Est-ce que vous pouvez nous le prouver? Non, on ne peut pas vous le prouver là, à court terme. Parce que des actions comme ça, en fait, c'est du temps long. Pour construire une société d'intérêt collectif, du coup, menée par et pour des habitants qui potentiellement, à l'origine, ont du mal à sortir de chez eux, n'ont pas forcément une maîtrise du français, ont pas ça, déjà, ça veut dire qu'il faut gagner la confiance de ces citoyens. Ensuite, il faut les emmener dans un cycle de formation. Il faut ensuite les amener à ce qu'ils prennent possession du lieu et qu'ils se donnent les moyens d'y arriver. Tout ça en gardant la mobilisation des acteurs publics tout au long du projet. Et là, en fait, il y a une vraie alliance et il y a une vraie alliance sur le temps long. Or, on le sait, de plus en plus, on entend parler de urgence. Oui, c'est urgent de bouger, quoi. Mais les projets structurels, les réponses structurelles, que ce soit l'éducation populaire pour accompagner le changement ou même des réponses pour pouvoir construire des filières pour demain ou pour pouvoir construire des réponses sur un quartier, elles ne sont pas du temps court. Il faut avoir confiance dans l'avenir et il faut investir sur du temps long. Et ça, c'est des freins qui sont des freins, principalement des freins de vision, de temps. Est-ce qu'on agit pour le temps court ou est-ce qu'on agit dans le temps long? Quand on fait de l'éducation populaire, on sait que en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour du temps long. Voilà. Et je pense que par moment, sur le financement, sur des actions, sur le jugement d'une action, il faudrait rentrer dans le temps long. Et aujourd'hui, c'est pas suffisant de ma part et c'est un des plus gros freins pour moi.
Ces propositions ouvrent des perspectives intéressantes et sont développées dans la note à l'initiative du Labo de l'ESS. Après s'être emparé des enjeux liés à l'éducation populaire, quelles sont les prochaines étapes sur le sujet pour le Labo ?
Ah, effectivement, l'idée de la note, c'était de poser un petit constat partagé et de dégager un certain nombre de propositions, de pistes, mais on n'a pas envie de s'arrêter là et de s'arrêter aux mots. L'idée, c'est que cette note stratégique, elle soit un peu la première marche d'une démarche un peu plus globale où on travaille avec les acteurs, dont YGREN et dont d'autres acteurs qu'on souhaite s'associer, et c'est encore bien sûr tout à fait ouvert, pour aller un peu mettre en action ces principes-là dans les territoires et le documenter, l'analyser, comprendre comment on peut concrètement aller un peu plus loin. Et donc voilà, on va être dans une démarche de recherche-action. J'en dis pas plus à ce stade, mais ça fera partie des les orientations stratégiques que le labo se donne pour les prochaines années.
Merci beaucoup à mes deux invités, Julien Mast et Florian Laboulé. Pour en savoir plus sur l'éducation populaire et accéder aux différentes publications du Labo de l'ESS sur la transition écologique juste, je vous invite à consulter ces travaux au www.lelabo-ess.org. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Faire Écho pour le deuxième épisode de cette série. Nous partirons à la rencontre de l'association Famille Rurale, une initiative qui incarne l'éducation populaire sur nos territoires. À bientôt !